الوجهان يبكيان.
وبأيدينا سنعيد بها. bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, l'émission qui sera avec vous donc jusqu'à minuit sur les ondes de Radio Centre-Ville. Avec vous, comme d'habitude, Lamine Samir. Et ce soir, on est le 10 mai, on va parler d'un sujet qui nous intéresse de près et aussi de loin. On va parler de deux sujets au fond, une date symbolique pour l'Algérie et aussi pour le monde arabe, le 8 mai. Le 8 mai cette année est très spécial parce que par rapport à la question donc palestinienne, c'est 60 ans de la création, donc qui ont été fêtés il y a deux jours, la création d'État d'Israël, mais en même temps le partage de la Palestine, l'imposition d'un colonialisme qui, on peut dire, est le dernier colonialisme du siècle. Et d'autre part, le 8 mai aussi est une date symbolique pour le peuple algérien. Ça nous rappelle, quand ça rappelle les promoteurs de la liberté, ça rappelle la libération donc du monde du nazisme, mais ça rappelle aussi pour les Algériens le 8 mai 1945 des massacres qui ont fait 45 000 morts dans l'Est algérien. Donc tout ceci va se faire avec vous, bien sûr, au numéro de téléphone comme d'habitude, 514-495-2597. Et on y va en musique avec Kamel Mesoudi. Et on va revenir avec Samir et l'introduction de l'émission.
Thank you.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. En ce samedi 10 mai, avec vous au micro, Lamine et Samir. Bonsoir Samir.
Bonsoir Lamine, bonsoir chers amis auditeurs de l'émission Taxi Maghreb.
Samir, donc ce soir on va parler essentiellement donc de la question palestinienne. On sait que cette année, il y a une manifestation aujourd'hui à Montréal.
Oui, sur René Lévesque et Pile, c'était une manifestation à l'occasion de...
Dépendamment de quelle position
c'est
on
ça.
Est.
C'est ça, parce que tu sais, chaque vendredi, si tu sais, chaque vendredi, d'un côté il y a les pro-israéliens, de l'autre côté les pro-palestiniens, toujours
à midi
sont toujours là, et cette fois-ci les palestiniens ils ont fait une, au fond
il y a plusieurs organismes, soit de la communauté arabo-musulmane mais aussi des organismes québécois, aussi des organismes juifs qui ont organisé une manifestation pour dénoncer le colonialisme qui reste encore actuellement en Cisjordanie. Mais pour comprendre toute cette complexité, surtout pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant donc du détail de l'historique de ce conflit.
Donc il y a toute une histoire derrière ça.
Exactement, c'est une histoire. Quand on parle aujourd'hui d'Israël, on parle de la question palestinienne, de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est une histoire qui date, on peut dire, de plusieurs siècles, mais on va essayer de se focusser le dernier siècle. Essentiellement à partir du moment de la chute de l'Empire ottoman, qui détenait aussi, qui avait autorité sur la majorité des pays donc de la région, en commençant par l'Algérie, puisque l'Empire ottoman ne s'est pas installé au Maroc, en allant vers la région donc du Moyen-Orient.
Mais,
Samir, donc,
mais tu sais, Lamine, c'était même avant la chute de l'Empire ottoman. Donc, parce que regarde la déclaration de Balfour qu'il a faite en 1917 pour le baron de Rothschild, le Balfour qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Empire britannique. Donc, il avait fait une promesse pour le baron de Rothschild qu'il y aurait un foyer national juif qu'il va créer. Un foyer national juif en Palestine. Bon, et tous les événements qui se sont suivis, donc...
Et ça, c'est important de le mentionner, c'est que... Et là, on reviendrait un petit peu sur l'attitude arabe sur cette question, que soit au niveau des systèmes politiques ou même au niveau de la population, mais il faut mentionner que cette promesse-là est arrivée bien avant ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah ou ce que les nazis ont fait donc aux juifs, ce terrible, on peut dire, crime contre l'humanité, que beaucoup de gens qui défendent la cause arabe font l'erreur de le nier parce que c'est un événement historiquement établi, et je ne pense pas que quelqu'un qui a souffert gagne donc l'autorité ou le droit de faire souffrir d'autres peuples. Donc je ne pense pas qu'il faudra nier tout simplement un fait historique.
On ne pourra jamais légitimer de faire souffrir les autres.
C'est important de mentionner que cette promesse est venue bien avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, bien avant qu'il y ait l'effort crématoire et tout ça. Donc bon, il y a eu beaucoup d'événements, on va épargner tous ces détails. Donc le 29 novembre 47, l'Assemblée générale de l'ONU vote un plan de partage de la Palestine.
Et je dirais que avant ce plan de partage, il y a eu une installation massive de juifs qui sont installés donc en Palestine à partir du début du siècle jusqu'aux années 40.
Un exode
une immigration.
C'est ça.
Il y a un chiffre très, très symbolique. À la déclaration donc de l'ONU en 1948, il y avait 600 000 juifs qui étaient considérés comme étant les premiers Israéliens donc après cette déclaration qui a été faite par l'ONU le 8 mai 1948.
Bon, attends, l'ONU, il faut qu'on rétablisse. Ouais. Il y a eu l'adoption ou le vote par l'Assemblée générale de l'ONU du.
C'était au mois de.
De partage du, au mois de novembre 47, le 29 novembre 47. Bon, c'était soutenu par les grandes puissances de l'époque et bien sûr les pays arabes étaient contre. Et bon, il y a eu beaucoup d'événements entre temps et le. Bon.
Le 8 mai 48, la déclaration.
Le 14 mai 48. 14 mai. Bon, il y a le 14 mai, mais n'oublie pas le calendrier israélien par rapport à. Il y a chaque année, c'est un petit décalage. C'est un peu, je sais pas si c'est un calendrier lunaire ou, mais il y a un petit décalage.
C'est un mélange d'un calendrier lunaire et solaire.
Lunaire et solaire. Donc ça donne que bon en 48 c'était le 14 mai la déclaration de l'indépendance d'un point de vue israélien et
la Nakba
pour le peuple palestinien pour les Arabes.
Samir, après, il y a eu, on peut dire qu'en 48, les pays arabes n'ont pas accepté cette situation. Il y a eu, on peut dire, la guerre de 48.
Oui, il y a eu la guerre de 48.
Et c'est pour ça que quand on parle des réfugiés, on fait référence aux réfugiés de 1948. C'est pour mentionner les réfugiés qui viennent des territoires palestiniens initialement avant 48, mais qui sont devenus, suite à cette décision de l'ONU, des territoires israéliens.
Donc, il faut pas oublier que il y a eu plusieurs conflits israélo-arabes. Il y a eu six guerres ou conflits armés. Nous avons la guerre de 48, la crise de Suez de 56.
Et là, on voyait l'intervention essentiellement française, américaine. Oui. Mais il faut mentionner aussi qu'il y a une relation directe avec la révolution algérienne, parce que la France s'est impliquée contre l'Égypte de Nasser suite au soutien que l'Égypte a apporté à la révolution algérienne.
Bon, on a dit qu'il y a eu aussi la crise de Suez de 1956, et puis il y a eu la guerre des six jours de 1967 qui a abouti à l'annexe arabe à l'époque.
Et là, on fait référence essentiellement parce que en 1948, de 48 à 67, Israël n'avait pas récupéré tous les territoires définis par l'ONU. Entre autres, l'ancienne ville de Jérusalem était encore sous l'autorité arabe, sous l'autorité jordanienne. Et en 1967, donc c'était le mois de juin, le 5 juin 1967, où il y a eu la guerre qui a permis à Israël de récupérer donc le Sinaï égyptien, de récupérer Jérusalem récupérer aussi essentiellement l'ancienne ville de Jérusalem qui était normalement, selon la décision de l'ONU en 1947, une zone internationale.
Cette zone reste toujours internationale selon le. Selon
non, aujourd'hui, elle est sous l'autorité israélienne.
Oui, elle est sous autorité, mais par la politique du fait accompli ou par.
Non, par la politique du fait accompli. Ah. Parce que la décision, c'était de partager Jérusalem, la ville de Jérusalem, qui est beaucoup plus grande que l'ancienne ville, qui est un petit peu l'équivalent de la Casbah algéroise les Casbah de Al-Boul d'Antana. Donc, c'était l'ancienne ville qui devait rester sous l'autorité internationale. Parce qu'elle comprend donc des sites religieux de plusieurs religions monothéistes. Par contre, la ville de Jérusalem, qui est plus grande, devait être partagée en Jérusalem Est et Ouest.
Lamine, je profite. Toi, tu as déjà visité Jérusalem, Al-Quds.
Oui.
Je voudrais bien, en terminant, dénumérer les conflits, qu'on revienne sur ça. Si tu as vu comment c'est la présence israélienne, elle est, tout ça.
Il n'y a pas de problème. Après 67.
Donc après Harb Sebastin, il y a eu la guerre de 73.
Et entre les deux guerres, il y a eu ce qu'on appelait la guerre d'usure, où l'Égypte essentiellement a maintenu une pression, donc d'actes d'espionnage, d'actes donc.
Harb al-Istinzaf.
Exactement.
Et puis on met aussi certains mettent aussi la guerre du Liban et la deuxième guerre du Liban aussi. T'as de 82 et celle de 2006.
Bien sûr, entre-temps, il y a eu les accords de Oslo. Arafat avait signé avec Rabin, donc Rabin, le président Rabin aussi, Ishaq Rabin, les accords qui étaient considérés en ce temps-là comme étant des accords historiques, puisque c'était pour la première fois que des Israéliens et des Palestiniens négocient et arrivent à, on peut dire, un accord initial de paix.
Mais on voit qu'entre-temps, les accords ont été vidés de tout leur contenu. C'est pas sur le terrain.
Il y a aussi une guerre qu'on a oublié peut-être de mentionner, qui n'est pas vraiment une guerre, mais ce qu'on appelait la guerre des pierres,
Hajr al-Intifada,
celle qui a commencé dans les années 80.
En 88. Ouais.
87.
Pas oublier la déclaration de l'indépendance de l'État palestinien en 1988 à Alger.
Ça a été... Septembre 1988, un mois avant le 5 octobre.
Avant le 5 octobre en Algérie.
Il y a eu la fameuse visite de Sadat à Jérusalem, mais moi je faisais plus référence de Sharon, qui a visité l'esplanade de la mosquée qui a entraîné, on peut dire, la déclaration de la deuxième intifada, la seconde intifada. On pourra mentionner que les dernières années aussi ont montré un conflit interne au sein du peuple palestinien, un conflit, on peut dire, idéologique et aussi de méthode de contrer ce colonialisme, un conflit qui a résulté à la création, on peut dire, de deux Palestines, puisqu'actuellement Gaza est sous une autorité et la Cisjordanie est sous une autre autorité.
Lamine, il ne faut pas oublier aussi de mentionner le mur érigé par Israël pour séparer les territoires et qui est considéré comme... Il y a même Carter qui a fait son livre La paix, pas l'apartheid, donc qui est considéré comme... La politique israélienne actuellement vis-à-vis du peuple palestinien est considérée comme une politique d'apartheid par beaucoup de personnes.
Pour la première fois à Montréal, Samir Lassini. Alpha, le journal de la communauté, présente une grande soirée de variété le vendredi 23 mai à 20h30 au Château Princesse, avec l'aimable concours de Sidbad Voyage, Collège supérieur de Montréal, Cédec Antique Cartierville, Nasser Azergen, conseillère en sécurité financière, Saïd Joalier, les marchés Adonis, Lunetterie Farhat Côte des Neiges, Clinique Sharif Naimi, Cananote. Pour de plus amples informations, contactez le journal Alpha au 514-531-1382. 514-531-1382. Samir Lassimi, un rendez-vous à ne pas manquer.
Donc, bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Et ce soir, comme Samir nous a présenté, on va parler de la question palestinienne. La question palestinienne revient au mois de mai, donc de chaque année, puisque c'est la déclaration de la création de l'État d'Israël en 1948. Mais avant qu'on passe aux questions, mais plutôt, on va aller plutôt aux questions sur la question palestinienne, la question qu'on veut poser à nos chers auditeurs, surtout des questions autour de 60 ans de ce conflit. Comment évaluez-vous les implications de ce conflit? On sait très bien que autant que le peuple palestinien qui a souffert et qui souffre aussi maintenant, on sait très bien que Gaza est sous un blocus depuis plusieurs semaines. Oui. On sait très bien que des territoires sont occupés, même selon les déclarations de l'ONU. Et aussi, d'autre part, d'après vous, c'est quoi les implications sur les pays arabes? On sait très bien que beaucoup des dictatures ont vécu dans les pays arabes grâce à ce conflit, en ne permettant aucune opposition, pour la simple raison que c'est une opposition qui allait affaiblir leur système politique, qui avait pour première mission de libérer la Palestine. 60 ans après, cette libération n'est pas venue, mais aussi avec un prix très fort, que ce soit au niveau du peuple palestinien qui a souffert beaucoup, mais aussi des peuples arabes, une implication totale des pays arabes dans ce conflit à des niveaux différents. Bien sûr, les pays arabes par rapport à ce conflit ont eu des attitudes très très différentes. Il y a des pays qui ont rétabli les relations avec Israël depuis des années, d'autres jusqu'à présent n'ont pas donc de relations officielles avec Israël. Toutes ces questions. Aussi, c'est mieux la question dire, de ce qu'on appelle en Occident l'antisémitisme.
Oui.
On sait très bien que, et ça je fais référence quand j'avais visité le musée de l'Holocauste à Jérusalem, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'entrée de l'Holocauste, à l'entrée du musée.
Enfin, mémorial.
Oui, on mettait le nombre de juifs dans chaque pays du monde. Et avant la Deuxième Guerre mondiale et à la sortie, on mettait aussi le nombre de juifs après la guerre, et on voyait un écart des fois important dans des pays occidentaux essentiellement, donc en Allemagne, en France aussi. Mais ce qui était intéressant de mentionner,
dans les pays
que
arabes,
dans tous les pays arabes, les chiffres n'ont pas changé, ce qui démontrait que la coexistence judéo-arabe d'une façon globale, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, était établie. Mais un des éléments qui peut-être on pourra débattre aussi ce soir au 514-495-25-97, est-ce qu'on sait pas, ou est-ce qu'on n'a pas été entraîné dans les pays arabes dans un antisémitisme sans qu'on se rende compte de ça, une confusion entre sionisme et judaïsme, qui est très très établi des fois, même dans notre langage, on ne fait pas vraiment la différence entre les deux éléments qui sont très importants à distinguer, puisque la première, il s'agit d'un mouvement politique qui a établi un État et qui continue aujourd'hui donc à coloniser un autre État, même selon les lois de l'ONU, et une religion, un peuple qui a adopté une religion qui peut être en accord ou en désaccord avec le premier. Donc c'est ce genre de questions qu'on voudrait traiter avec vous, comme d'habitude au 514-495-2597. On va prendre un premier appel, sinon on va aller en musique, après on prendra donc le premier appel. Mais Samir, je pense qu'on pourra aussi parler un petit peu du 8 mai 45, qui est très symbolique pour nous autres Algériens, mais avant qu'on le fasse, on y va en musique, et on va commencer à prendre vos appels au 514-495-2597. On vous laisse en musique avec Zino.
Oh,
Rebienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Et ce soir, donc, au début de l'émission, on a parlé de la question palestinienne, parce que, comme Samy l'a mentionné, le mois de mai nous rappelle la Nakba pour le peuple arabe, donc, ce qui est considéré comme la perte d'une grande partie de la Palestine en 48 et la perte de la suite en 1967, et qui correspond d'autre part à la création de l'État d'Israël. Deuxième sujet qu'on va traiter, en introduction, pour revenir à notre premier sujet en termes d'appel, je vous rappelle le numéro de téléphone qui est le 514-495-2597. Le deuxième sujet, Samir, ça va être le 8 mai 1945.
45, et là, le 8 mai 1945, d'un point de vue algérien, pour nous les Algériens, c'est pas la fin du nazisme, ou c'est les événements qui sont passés dans l'Est algérien, c'est Staïf également, où il y a eu, des manifestations, et après il y a eu des massacres. Bon, les chiffres chez nous, c'est des chiffres de 45 000 morts. Il y a eu 45 000 morts. Les Français ne les ont jamais reconnus jusqu'à maintenant.
Et dernièrement, il y a eu la déclaration de l'ambassadeur de France en Algérie.
L'ambassadeur Bajolet, il a annoncé. C'est pas le premier. Il faut pas se tromper, parce qu'on a tendance à oublier. L'ancien ambassadeur, l'avant-dernier, il avait aussi fait une déclaration à Sétif. Mais bon, ils reconnaissent, comme ils reconnaissent pas. En tout cas, tu connais actuellement la classe politique française n'est pas prête. N'est pas prête à assumer ce qu'elle a fait.
Et c'est important de mentionner que parmi la classe politique française, et récemment, donc même le président de la France avant, bien sûr, Chirac, Mitterrand, c'est des personnes qui ont participé directement à la guerre. On ne parle pas donc de personnes qui étaient loin du des points de décision.
Bon, c'est pas des gens nés après 48.
Exactement. Donc, ce qui fait que on va espérer que cette génération dont politique, c'est sûr que ça va pas être avec Sarkozy, mais au moins la génération, les jeunes policiers français vont admettre les erreurs qui ont été faites par la France.
Mais moi je suis convaincu que si les Algériens ne font pas de pression, on sera les oubliés de l'histoire. Hein. T'as vu comment actuellement la communauté juive à l'échelle internationale, si c'est pas presque la propagande et la répétition de ce qui leur est passé, et à chaque fois des rappels, c'est ça qui maintient la mémoire. Sinon, si tu te laisse aller, personne ne va pleurer à ta place.
On revient donc avec Samir les appels. On va prendre le premier appel. Allô, oui, bonsoir.
Allô.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, Lamine. Un coucou à tous, à toi et Samir et les auditrices et auditeurs. Oui, c'est une cause qui touche tous les peuples arabes. Donc, depuis qu'on était très jeunes, on connaissait la cause palestinienne. Et ce que je voudrais dire, j'étais en train d'écouter votre passage sur les périodes historiques de la Nakba et tout. Mais ce que je voudrais dire, il y a eu un passage où vous avez sauté, c'était le septembre noir de 68, où l'armée jordanienne a tué, a massacré des milliers de Palestiniens, où il faillait le roi, la monarchie royale, l'Hachimie jordanienne, d'être plus là. C'est que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que la cause palestinienne, elle a été trahie par elle-même. Il y a eu plusieurs trahisons contre la cause palestinienne par des régimes arabes que vous avez annoncés, dictature et tout. Et c'est que je voudrais dire que le monde est injuste. Parce que l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU a partagé la Palestine et elle n'a pas pu donner la partie palestinienne aux Palestiniens. Donc combien de résolutions des Nations Unies qui n'ont pas été appliquées depuis 1947 jusqu'à présent, et que Israël bafoue comme ça et ne respecte pas.
Mais Belkacem, je vais un petit peu jouer l'avocat du diable. En 48, les Arabes avaient plus que la partie israélienne. C'est-à-dire que les Arabes, jusqu'à 67, avaient même Jérusalem au complet, qui selon la décision de l'ONU, devait être sous l'autorité israélienne. Est-ce que tu penses pas
international, tu veux dire.
Non, non, l'ancien Jérusalem sous l'autorité donc internationale, mais même Jérusalem Est et Ouest était déjà prise par la Jordanie en ce temps-là. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a comme une contradiction, c'est que au moment où on devait peut-être, on était en position de force de négocier, on n'a pas négocié, on a voulu la guerre sans être capable de faire la guerre puisqu'on a perdu presque toutes les guerres, mais en même temps, au moment où on est devenu très faible, on commence à négocier et là on nous parle de petits morceaux qui se réduit en petits morceaux, qui se réduit en petits morceaux. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu une mauvaise gestion du conflit dès le début?
Oui, il y a une erreur fatale. Vous savez, Bourguiba, les années 54, a dit de négocier et partager, plutôt accepter avant que les territoires de 67, on l'a accusé d'un réactionnaire.
Quand il avait proposé aux Arabes d'accepter le partage.
Oui, c'est ça. Donc on l'a accepté de Rajaï. Donc chaque Arabe qui a évoqué ce problème-là du partage ou d'accepter le partage comme il était fait ou ce qu'on avait, on l'a accusé de réactionnaire. Et peut-être ces régimes-là arabes, comme vous l'avez dit, pour exister, utiliser la cause palestinienne, peut-être c'était voulu, je ne sais pas, mais c'est la conscience du monde arabe qui est en jeu. Et c'est que même la communauté internationale, elle est injuste, elle est hypocrite, parce que là, on est en rapport de faiblesse.
C'est ça, c'est ça.
Et octobre 73, Kissinger a arrêté la guerre d'octobre quand les Arabes commençaient à avoir presque aller gagner la bataille. Donc, vous savez, c'est très compliqué, mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, dans ce monde moderne, il faut qu'il soit juste. Pourquoi deux poids, deux mesures? Israël, elle n'applique pas les résolutions. Et si un pays arabe n'applique pas, tout le monde est contre, on l'attaque et on le détruit. Donc c'est injuste, ce que je voulais dire.
Belkacem,
oui.
Tu sais, si tu me rappelles une chose, c'est que tu te rappelles de Netanyahou qui était premier ministre israélien. Tu sais qu'est-ce qu'il disait, sa devise c'était quoi? Les gens sont avec le faible un temps, ils pleurent avec le faible un temps, mais ils sont avec le fort la plupart du temps. Donc on est presque tenté de dire que c'est la logique du plus fort et la loi du plus fort.
C'est ça. Donc le monde est injuste là. Pour comment on veut dire la Birmanie là qui accepte pas aujourd'hui les aides humanitaires de lui forcer à accepter. Et vous voyez là,
oui.
C'est que le monde est injuste, que je voudrais dire.
Mais la belle que la Birmanie, excuse-moi, ça va justifier les interventions humanitaires. C'est-à-dire le droit d'intervention humanitaire, ça c'est très délicat. Et il y a eu le champion dans ça, c'était Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères français, qui est très champion dans le droit de l'intervention humanitaire. Ça, c'est très délicat. Allô?
Merci beaucoup, Belkacem. Je pense que ça s'écoule. Je prendrai un autre appel. Allô, oui, bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est Lamine Foura.
Oui,
c'est bon, là?
Oui, alors vous êtes sur les ondes. Je connais Maya?
C'est M. Rachid Della, responsable du FLN Canada.
Oui, bonjour,
donc,
monsieur. Ça va bien?
Allô?
Oui, ça va. Vous êtes sur les ondes. Hein.
Ça va, merci. Bonsoir, Samir aussi.
Bonsoir, monsieur Della.
Là, si vous permettez, je vais intervenir rapidement sur le conflit israélo-palestinien, pas sur le passé, mais plutôt sur les perspectives futures. Et là, je dirais qu'il y a une urgente quand même nécessité de déplacement de certains centres d'intérêt de Washington vers Paris. Et ça, c'est relativement un petit peu à la future construction méditerranéenne, du consortium méditerranéen. Je préfère ne pas dire le processus de Barcelone, n'en déplaise à Angela Merkel, l'Allemande. Et sur cette base-là, il va falloir construire plein
de choses. Mais le processus de Barcelone, il est mort, non?
Hein?
Je pense que le processus de Barcelone, il est fini, là.
Non, non, non. Mais c'est-à-dire que, monsieur Nicolas, le président français Nicolas Sarkozy, avait proposé carrément une construction méditerranéenne. Et sur cette base-là, on lui avait demandé carrément de changer l'appellation et de revoir la copie. Et alors la dernière appellation qui a été approuvée, c'est bien processus de Barcelone, 2 points, construction méditerranéenne.
Bon, c'est pour ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire que...
Oui, avec. Enfin, c'est un jeu de mots un petit peu. Alors là, ce qu'il faudrait savoir, c'est que vu sous cet angle-là, la construction méditerranéenne pourrait carrément donc régler le conflit sous un autre angle, bien avec une autre approche. Ceci dit, à absence d'interlocuteur valable, et on l'a vu, dès que on avait, enfin, le président Nicolas Sarkozy avait proposé le projet, enfin, certains avaient dit qu'il y avait un manque de contours, il y a eu absence de propositions, mais on sent qu'il y a un vide politique, surtout en matière de politique étrangère, au niveau des pays arabes. En dehors de l'Algérie, qui possède en la personne de M. Abdelaziz Bouteflika quand même quelqu'un d'hors pair, connu et confirmé d'expérience internationale, on ne voit pas, hein, carrément sur tout l'axe, que ce soit de Rabat carrément au Caire, pas grand-chose, hein, sur ce plan-là. Et c'est ça le problème, il y a eu absence de proposition.
Monsieur Rachidella, je vous ai l'occasion pour vous poser une question par rapport à la position des pays arabes.
Vous, en, vous m'entendez bien parce que là, oui, j'entends un peu mal. Oui.
Non, on vous entend très bien.
Oui.
Une question par rapport à la position des pays arabes, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? C'est comme si on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix. Par rapport à cette question, c'est que beaucoup de pays arabes, je dirais la majorité, on n'a pas une, je pense pas qu'il y ait une position très claire. Bon, il y a beaucoup qui veulent pas admettre l'état, l'existence de l'État d'Israël,
oui.
Mais en même temps, on n'est pas dans un processus de guerre comme c'était le cas entre 67 et 73. Si on prend la position de l'Égypte. Si on oublie un petit peu le côté émotif, hein, si j'essaye de prendre du recul, je dirais que Sadat a été intelligent. Il a mené une guerre pour négocier après avoir démontré qu'il est capable de gagner une guerre. Si on comprend très bien sa démarche, loin des émotions, entre 67 et 73, il a mené une guerre d'usure, donc qui a fait fatiguer, on peut dire, les services de sécurité israéliens. En déclarant la guerre de 73, il a démontré une possibilité de la défaite de l'armée israélienne et une victoire de l'armée égyptienne et arabe, puisqu'il a été quand même soutenu par plusieurs pays arabes, entre autres bien sûr l'Algérie, mais après ça il a négocié d'une façon, on peut dire, d'une position beaucoup plus forte, puisque la dernière guerre qu'il a menée.
Une guerre, vous pouvez perdre le conflit sur un plan militaire et le remporter sur un plan géostratégique.
Mais actuellement, à part...
C'est pour vous dire, c'est-à-dire oui. Là vous raisonnez sur un plan purement militaire.
Hein. Oui, non, mais mon point c'est que d'une façon globale, actuellement, après 60 ans, Samir a mentionné Bourguiba, j'ai mentionné Sadat.
Il faut réformer les régimes arabes. Il faut admettre qu'il y a un vide. Hein. Regardez en Algérie, on avait l'Ayasmo Mohamed Sadir Ben Yahya. Il y a actuellement, on a l'Akhdar Brahimi, M. Abdelaziz Bouteflika. Mais on sent qu'après, il y a un vide.
Il n'y a pas eu de relève, c'est ça. Donc,
C'est terrible même. Et bon, maintenant, pourquoi il y a un vide, ça, c'est une autre paire de manches.
Ça sera le sujet de notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Della, pour votre participation.
Il n'y a pas eu renouvellement des élites politiques, un peu.
On espère que ça va se faire. Merci beaucoup.
Voilà, ceci dit, on a eu confiance quand même en Monsieur Nicolas Sarkozy, parce que c'est une autre vision des choses, et je suppose qu'il n'y aura pas, enfin, on espère, d'unilatéralisme. Voilà, bonne soirée.
Monsieur Rachidella, excusez-moi, avant de partir, vous dites que vous faites confiance, vous avez confiance en Monsieur Nicolas Sarkozy.
C'est-à-dire pour l'approche, une nouvelle approche, carrément.
Ok, qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Sarkozy quand il refuse d'accepter de faire un repentir par rapport aux atrocités et à la guerre d'Algérie et à tout ce qu'ont fait les Français en Algérie?
C'est 45, c'est le deuxième sujet, j'allais réappeler. Hein. Bon, le oui, mais 45, si techniquement, genre, il y a une loi d'amnistie en France qui court-circuite toute poursuite, je vous donne juste un petit tuyau, à partir d'ici, une poursuite collective, elle passe. Hein.
Ah, c'est par rapport aux lois canadiennes.
Pour commencer, ça. Donc, je pense que tôt ou tard, il va falloir reconnaître ça sous un angle ou un autre. Hein.
Merci beaucoup pour votre appel.
Avéré. Au LAFMO, il y avait M. Béchir Boumaza qui avait travaillé du Sénat là-dessus. Et puis,
il a créé l'organisation 8 mai 45. Il a travaillé très fort pour essayer. Bon. Donc,
je pense qu'on aura le temps de débattre très en détail tout à l'heure, d'ici 15-20 minutes là-dessus. Je vais essayer de rappeler.
Merci beaucoup et à Texas.
Merci, au revoir.
Donc, on vous rappelle que pour participer à notre émission, c'est le 514-495-2597. On va aller en musique avec Dahmal Harrachi. Et le sujet d'aujourd'hui, Samir, donc c'est la
création de l'État d'Israël et qui a été concomitante avec la Nakba arabe. Et bien sûr, les événements du 8 mai 45 en Algérie. Oh,
الصبحة والشمس طالعة عيال على جنبها تمحاين وتزينة مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة والقلب يا درا وهكذا يتمنى في حالته يغير من غرامك أرجع مريض ما برا جاي صيد بقرة ما راح للمسجد الله يحسن عونه ما باع ما شرا
يا الحج لا جاك الصياد من بعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة
جنبها معاين وتزين مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة اش عندك قلبك حجرة ولا حجر ما ظهر خيالك وش بيك حيرة
يا الحج لا جاك الصياد من بعيد ما نسيب الصبحة والشمس طالعة
عيال على جنبك معاين وبزين مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة يا مربعة عليك فلان يحبك هكذا يغير شاعلة في ذات ونيران طالعة أشطى معدك السياد الجديد راه صبر يستنى فيك راجعة
يا الحج لا جاك الصياد من بعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة
مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة صور بردة من ورا وهكذا بحكامك وحكام وشديد ما يشفك حال وإش حال ما جرى
يا الحج لا جاك الصياد من بعيد عنسي بالصبحة والشمس طالعة
هي العجل
Première fois à Montréal, Samir Al-Assimi. Alpha, le journal de la communauté, présente une grande soirée de variété le vendredi 23 mai à 20h30 au Château Princesse, avec l'aimable concours de Sidbad Voyage, Collège supérieur de Montréal, Cédec Antique Cartierville, Nasser Azergen, conseillère en sécurité financière, Saïd Joaillier, les marchés Adonis, Lunetterie Farhat Côte des Neiges, Clinique Sharif Naimi, Cananeut. Pour de plus amples informations, contactez le journal Alpha au 514-531-1382. 514-531-1382. Samir Al-Assimi, un rendez-vous à ne pas manquer.
Bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Et ce soir, on parle de la question palestinienne, mais on parle aussi d'un autre sujet. Le 8 mai 45, donc, ce qui s'est passé en Algérie par l'armée française coloniale. Et je prends un autre appel. Monsieur Khadraoui, bonsoir. Oui, monsieur Khadraoui, bonsoir.
Bonsoir, Lamine, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Vous m'entendez?
Oui, très, très bien.
Très bien. Excusez-moi, je vous appelle d'un endroit public. Et donc, je ne pourrais pas m'étendre. Je ne suis pas très à l'aise pour vous parler des choses.
Il n'y a pas de problème.
Des choses délicates. Mais je voudrais seulement vous donner une certaine information que j'ai personnellement et qui n'est pas tout à fait l'information officielle. On s'entend?
Oui, oui, bien sûr.
Allô?
Oui, vous êtes sur les ondes. On vous entend, M. Khadraoui.
Et donc, je n'ai pas la prétention de régler le problème palestinien, israélo-palestinien, mais j'aimerais vous donner juste quelques repères. En l'an, à l'année 67, c'est-à-dire 67 ans après la naissance du Christ, Jérusalem a été brûlée par l'Empire romain. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les Juifs avaient créé tellement d'histoires et de dégâts, ils ont brûlé leur pseudo-ville sacrée et les ont chassés. Vous m'entendez?
Oui, oui.
Allô?
Oui, on vous entend.
Allô?
Oui, M. Khadraoui, allez-y, on vous entend. Vous êtes sur les ondes.
Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus les Arabes, comme on les appelle, qui ont fait ça, ce n'est pas l'islam. Et à partir de ce moment précis qui est l'an 67, ces gens ont été éparpillés à travers toute la planète. Ensuite, ils ont lutté avec acharnement contre le christianisme, c'est-à-dire une religion représentée par un rabbin juif comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des gens qui se posaient comme des privilégiés, comme des gens supérieurs. C'est-à-dire leur religion était la supériorité, était la suprématie. Ils n'ont pas accepté le christianisme et ils l'ont détruit. C'est eux qui l'ont détruit. Ensuite, ils ont lutté contre l'islam, bien sûr. Et ensuite, on vient 1900 années plus tard, non, je veux dire 1941, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Allô?
Oui, oui, vous êtes sur les ondes. Hein.
Merci. Hein. Oui. Je suis dans un endroit public et je suis pas très confortable, je vous assure.
Il n'y a pas de problème.
Et donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que la Palestine a été une colonie britannique. Et la grande et la haute puissance juive financière a fait des accords secrets avec Hitler dans le sens que si vous m'aidez à attaquer l'Angleterre, je vous donnerai la Palestine qui est une colonie anglaise. La haute puissance, elle a dit oui. Ils ont fait un accord secret avec lui. Mais les Juifs, ils ont créé, au sein de l'armée britannique du temps de Churchill, ils ont créé ce qu'on appelle la Légion juive. C'est-à-dire que c'était un organisme qui s'imposait à Churchill. Et lorsque Hitler a vu ça, il a commencé à ouvrir les fours. C'est-à-dire que les gens, d'un côté, ils ont fait un accord secret avec lui pour de se débarrasser des Anglais, et de l'autre côté, ils ont créé une légion au sein de l'armée britannique, et c'est cette légion-là qui a été en Palestine et qui a créé le noyau de lutte avec, bien sûr, Rothschild, qui, lui, avec sa haute finance, il a commencé à cultiver, soi-disant, la vigne. Donc, pour vous donner juste ces deux petits repères et pour vous dire qu'il y a une partie des Juifs qui ne sont pas innocents, ils ont créé de sacrés problèmes et que ce qu'on appelle les Arabes aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Ça a commencé avec l'Empire romain. Vous m'entendez ?
Oui,
M. Khadraoui.
Allô ?
Oui, M. Khadraoui, on vous entend.
Allô ?
Oui, M. Khadraoui.
Ça va ?
Oui, vous êtes sur les ondes, on vous a entendu.
Je vous remercie parce que je ne peux pas continuer.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Khadraoui, pour votre appel.
Il y a trop de va-et-vient.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Donc, c'était un de nos auditeurs qui nous appelait au 514-495-2597. On va aller en musique cette fois-ci, Samir, avec notre grand chanteur qui est, on peut dire, ces derniers temps, il est absent parce qu'on attend toujours son dernier album. Vous allez le découvrir avec moi.
Ah, ok.
Aziz avec une chanson qui parle de liberté, surtout de liberté d'expression. On va prendre un autre appel, Samir, qui vient de rentrer. Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, Lamine, je m'excuse.
Il n'y a pas de problème, Bokas.
Je voudrais dire qu'il ne faut pas faire une allusion entre le monde juif et arabe, parce que le problème arabo-israélien, c'est pas arabo-juif, parce qu'il y a des juifs qui n'acceptent pas le partage de la Palestine. jusqu'à présent. Et il y a des juifs arabes qui vivent dans les territoires israéliens qui sont vraiment mal vus et qui sont subis du racisme. Vous savez, en Afrique du Sud, il y avait la conférence internationale sur le racisme. Israël a été touché du doigt et que les États-Unis et Israël ont quitté la salle. Donc, je voudrais dire que, puisque même à Radio-Canada, j'ai entendu arabo-juif. Un problème arabo-juif, c'est pas arabo-juif, arabo-israélien. Parce que ça n'a rien à voir avec la religion juive. Et à l'occasion, je ne sais pas si tu es au courant, il y a Lili Bouniche qui est décédé, c'est un chanteur très connu qui a chanté la chanson Alger, Alger. Personne n'en parlait, donc je ne sais pas si vous avez une chanson de Lili Bouniche à l'occasion. Et
oui.
Pour le 8 mai 45, c'est vrai, la déclaration de l'ambassadeur de France à Alger a incité vraiment un tollé en France et partout. Ce qu'on voudrait dire pour la cause palestinienne, à mon avis, ce qui est arraché par force, elle revient par force, parce que jamais un droit il se donne ou il s'offre un droit, il s'arrache. C'est pas un cadeau.
Belkacem.
Oui.
Matqtach.
Un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, et moi je prie debout. Rabbi al-alamin, el seul Dieu, غير ربي واحد. Il n'y a qu'un seul Dieu, غير ربي واحد. Toi tu pries assis, moi je prie debout. ربي العالمين كل نحبه.
Oui, Belkacem.
Merci l'ami pour la chanson. Je l'ai dit, j'ai deux dames qu'elles viennent d'embarquer avec moi dans le taxi. Donc elles ont écouté une partie. J'espère qu'elle vous a plu. Elle vous dit oui la dame. Donc c'est un hommage à Lili Bouniche qui est décédée il y a quelques jours. Et merci l'ami pour ce petit cadeau là.
Merci beaucoup à Texas. Ah.
Ah.
Beslama Belkacem.
Des échos, il n'y a qu'un seul Dieu et nous sommes tous égaux. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, moi je prie debout. Rabbi al-alamin, kul nhabbu.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb.
Il y a dans la vie.
Une émission qui vous vient un samedi sur deux sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Ça fait, si tu n'es pas content, tu te prends par la main. Vas-y les chercher et tu les auras demain. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. pas toujours que tu n'as pas de job. Prie un petit peu moins et travaille de plus belle. Car tu sais très bien que ça tombera pas du ciel. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Révé, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis et moi je prie debout. Rabbi Al-Alam. À la même adresse, tu n'es pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que toi. La plus belle des choses, c'est de garder la foi, que tu portes la croix, chitaï ou le voile, on se retrouvera tous en haut dans les étoiles. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi, tu es assis, moi.
Donc, re-bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Il nous reste avec vous une dizaine de minutes. Je rappelle nos chers auditeurs donc de la communauté haïtienne, soyez patients. Tambour battant, notre ami Michel Bolivar est en train de se préparer pour recevoir les clés de la ville de Montréal. Et je suis sûr qu'il va animer la ville de Montréal de minuit jusqu'à 6h du matin. Samir.
Oui, Lamine. Donc, quand Belkacem avait. Par rapport à ce qu'a dit Belkacem, c'est qu'il a tenté de faire. C'est un conflit israélo-arabe, c'est pas un conflit arabo-juif. Mais l'aspect religieux dans cette histoire, il est là, on ne peut pas le nier. Toi qui as été, à Jérusalem, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect, de l'aspect religieux de la chose? Parce qu'il ne faut pas le nier, c'est une réalité.
C'est sûr que quand on parle de négociation, la question de Jérusalem revient souvent. Actuellement, si on se réfère à la dernière tentative qu'on peut dire sérieuse, c'est celle de la rencontre à Camp David, donc avec Feu Arafat, et c'était
du temps de Clinton.
De Clinton, exactement.
Oui, avec
Ehud Barak. En ce temps-là, on sait très bien qu'il y a deux éléments fondamentaux sur la question donc des négociations qui, on peut dire, bloquent la question du réfugié palestinien. Pourquoi ? Parce que c'est des Palestiniens qui ont été chassés des territoires de 1948, donc de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant l'État d'Israël, ce qui fait que démographiquement, ils vont devenir, je dirais, une présence arabe assez importante, bien qu'actuellement en Israël il y a quand même 1 million d'Arabes donc israéliens qui ont la nationalité israélienne de facto, parce que ils sont d'origine des territoires qui ont été donnés par l'ONU à Israël. La question de Jérusalem, pourquoi la question de Jérusalem? Bien sûr, Jérusalem c'est deux Jérusalem. Il y a le grand Jérusalem qui est une très grande ville qui est normalement en deux parties, donc Jérusalem Est et Ouest, une partie palestinienne et une partie donc israélienne selon les résolutions de l'ONU. Et il y a l'ancienne ville. L'ancienne ville, c'est une ville entourée d'un mur, comme toutes les villes donc romaines. Et la question religieuse, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que premièrement, il faut mentionner que c'est une ville sainte pour les trois religions monothéistes. L'église donc Kenstriyama, le Saint Sépius, qui est considéré donc par les chrétiens comme étant le lieu de la mort et de la résurrection. Donc de Jésus, c'est un lieu très important parce que il représente, disons, l'histoire et le sacrifice de Jésus par rapport à la religion chrétienne. Une présence aussi très très diversifiée. On va retrouver plusieurs églises anciennes qui sont installées et une présence donc musulmane schématisée par ce qu'on appelle non pas seulement la mosquée, mais seulement l'esplanade de la mosquée qui comprend le dôme. dôme, parce que ce qu'on voit de Jérusalem, le dôme donc doré, c'est Qubbat Sakhra, c'est pas la mosquée. La mosquée, c'est plus vers l'extrémité nord, donc de l'esplanade, une esplanade qui est très 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 grande et qui, on peut dire, est source du conflit religieux sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et bien sûr, pour la communauté ou la religion juive, on parle de Jérusalem où le temple qui a été détruit deux fois. Et actuellement, ce qui reste de ce temple, selon la version bien sûr donc juive, c'est le mur de la Lamentation, qui est un mur, on peut dire un mur de soutènement, donc de l'esplanade de la mosquée. Un autre élément que je voulais apporter par rapport à Jérusalem, c'est que Jérusalem est partagée, l'ancienne ville, depuis très très longtemps. Ça c'est pas nouveau. En trois quartiers, il y a le quartier juif, le quartier musulman et le quartier, on peut dire, chrétien, mais aussi arménien. Donc toutes les communautés chrétiennes qui ont une partie de la ville, et ça c'est un partage qui est historique, que ce soit donc depuis la présence musulmane dans cette ville-là, les trois quartiers ont coexisté dans une harmonie totale.
Lamine, est-ce qu'administrativement il y a une séparation aussi d'un point de vue administratif?
Actuellement, l'ancienne ville est sous autorité israélienne. Ce qu'il faudra mentionner, que les Palestiniens donc qui habitent cette ville-là ne sont pas systématiquement israéliens, ils sont jordaniens. Pour la simple raison que le dernier État donc arabe qui gérait la ville et qui gère aujourd'hui, qui représente l'autorité religieuse musulmane de la ville, c'est la Jordanie. Donc c'est des personnes qui ont des passeports, mais qui vivent sous l'autorité israélienne, parce que l'ancienne ville depuis 67, elle est sous autorité israélienne. Donc il y a trois quartiers. Maintenant, quand on parle, Monsieur, je pense que Khadalou avait mentionné la destruction de Jérusalem, c'est surtout la destruction du temple. Le temple dans l'histoire juive a été détruit deux fois. Et quand les musulmans sont arrivés, selon la version bien sûr israélienne, parce que d'un point de vue historique, il y a aussi des interprétations. Les Israéliens considèrent que la mosquée a été construite sur ce temple-là. Donc c'est comme si il y a une c'est pour ça qu'il y a actuellement des recherches archéologiques, des fouilles pour essayer de trouver ce temple-là. On a pu trouver donc les murs qui sont aussi donc les murs de cette esplanade, pour des juifs par exemple, ils se permettent pas de circuler sur l'esplanade parce qu'ils considèrent que il y a des saints juifs qui sont enterrés. Donc même le comportement de Sharon est rejeté même par rapport à des interprétations de la religion juive. Mais tout cela pour dire que le conflit religieux, bien qu'il n'est pas à l'origine, mais il est là pour la simple raison que d'un point de vue schématique, je dirais qu'il y a une parcelle de terre où quelqu'un à un temps donné considère qu'il y avait son temple, et que historiquement une autre nation s'est installée et elle a construit son temple sur le même endroit. Et c'est comme si le défi, et ça rejoint d'une façon très très parallèle la question des accommodements raisonnables. Comment permettre la superposition des cultures qui vivent ensemble sur une même terre, et que la culture qui arrive, parce qu'elle arrive, on peut pas se dissocier de sa culture d'origine, s'installe non pas sur la même parcelle de terre, non pas au détriment, mais en parallèle ou d'une façon
se superpose,
d'une façon très superposée. Donc c'est pour ça que quand on dit que le conflit religieux n'est pas présent, je dirais qu'il faut faire attention, parce que c'est sûr que pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre, c'est quand même l'Église, elle est très loin, donc elle est en dehors. Mais pour la question donc musulmane et juive, je dirais qu'il y a comme un
enchevêtrement.
Exactement. Et bien sûr, du côté musulman, on dit que ce n'est pas vrai, que le temple était à certain endroit et qu'on ne sait pas exactement où ce qu'il était. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qui font en sorte que le conflit est présent, au-delà de son côté politique, de son côté géostratégique aussi, parce qu'on sait très bien que même l'Occident, ça a l'intéressé d'avoir donc une zone de perturbation dans cette région. Et pour terminer, Samir, donc notre émission sur cette question qui, je pense, est quand même une question. Donc pour terminer donc sur cette question palestinienne, est-ce que tu pourras nous faire un résumé, Samir, par rapport à ce qu'on avait dit au début sur l'histoire du conflit? Peut-être les auditeurs nous ont rejoints à la fin de l'émission.
Donc par rapport, l'objet de l'émission aujourd'hui c'était de parler de la création de l'État d'Israël et de la Nakba arabe, donc de l'exode des Arabes après la guerre de 48. Donc le conflit il remonte bien, il y a beaucoup qui l'ont relié un peu aux souffrances des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui leur est arrivé. Or que si on remonte un peu plus loin, juste au début du siècle, il y avait eu la déclaration de Balfour, de Lord Balfour, qui a promis aux Juifs un foyer national juif en Palestine, et ça a abouti à la création de l'État, au partage de la Palestine, puis la création de l'État d'Israël. Il y a eu plusieurs conflits, plusieurs guerres israélo-arabes qui ont abouti à ça, et il y a eu aussi à la fin, on a eu les deux intifadas, et qui sont pas considérés comme des guerres, mais ça rentre dans l'affrontement israélo-arabe.
Merci beaucoup Samir. Merci. Donc on arrive à la fin de notre émission. Je remercie nos auditeurs qui nous ont appelés, les auditeurs qui ont participé avec nous à cette émission. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, Samir.
Oui, dans 15 jours, même heure, enfin de 10h30 à minuit.
Et on vous laisse avec la chanson par laquelle on a commencé, une chanson on peut dire historique, qui décrit le cri d'alarme d'un peuple, un peuple qui souffre parce que il vit toujours sous la colonisation, un peuple qui a le droit aussi d'avoir son propre pays, d'avoir son propre drapeau et de pouvoir tout simplement gérer ses affaires. C'est le peuple palestinien. On espère que la prochaine année, que cette date passera, ce serait une année où le peuple palestinien aura son état, aura son drapeau et aura donc la gestion de ces